Les éditions Thélème présentent un enregistrement intégral du livre de Joan de Paul Turin, lu par Mathilde Roque. Première partie, chapitre 1. L'ange me regarde. Quel que soit l'endroit où je me trouve, il me suit des yeux. C'est un bel ange, je le reconnais. Gracieux, si calme. On dirait qu'il dort les yeux ouverts. Je devrais me sentir flattée d'être ainsi observée, mais j'aimerais parfois qu'il m'oublie. Après tout, j'ai choisi la solitude. Nous sommes des dizaines ici à l'avoir choisie, et nous l'avons fait pour échapper au regard. Quelque chose d'autre me gêne. Il lui manque une oreille depuis qu'un morceau du plafond, abîmé par l'humidité, est tombé en emportant un peu de son visage. Ça n'enlève rien à sa grâce, bien sûr. L'oreille manquante se tient dissimulée dans l'ombre, aussi personne ne la remarque. Pourtant, même si je ne la vois pas, je la devine. Cela me suffit pour l'imaginer. Cette difformité me trouble. Il y a quelque temps, l'abbesse a fait venir un sculpteur. Il a considéré l'ange comme si c'était une simple brique. Puis il a secoué lentement sa grosse tête pour dire non. Il est reparti sans dire un mot. En plus d'une grosse tête, cet homme avait de grosses mains. L'abbesse avait l'air contrariée. Elle aussi a secoué lentement la tête, une tête étroite et ridée, serrée dans son voile. Une bouche pincée qui semble toujours être sur le point de dire non. Depuis ce jour, il n'a plus été question de réparer l'ange. Après tout, c'est peut-être à Dieu de le faire. Est-ce que les anges sculptés sont l'affaire du Seigneur? Est-ce que Dieu s'occupe des oreilles en pierre? Est-ce qu'il se charge d'entretenir sa création? À toutes ces questions, l'abbesse répondrait oui, avec sa bouche qui semble toujours dire non. Joan, elle, répondrait non, de sa bouche qui semble toujours dire oui. Mais l'abbesse est l'abbesse. Tandis que Joan, eh bien, Joan a reçu du Seigneur la périlleuse mission d'être Joan. Joan se tient à une toise de moi, elle chante. Nous sommes plusieurs dizaines en train de chanter le cantique de Siméon. Nunc dimittis servum tuum domine. Pour le dernier office du jour. 40 voix de femmes s'élèvent jusqu'à la voûte de notre église, tellement haute que, lorsque ces voix se taisent, leur écho subsiste une minute entière. Il semble tourner au plafond doucement, entre les nervures des arcs, avant de s'estomper comme un nuage. Nunc dimittis servum tuum domine, secundum verbum tuum in pace. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, comme promis. 40 voix de femmes de tous les âges, certaines fluettes et perçantes, certaines feutrées et basses, certaines fortes. Il y a aussi celle de la vieille Winifred, qui me fait penser au bruit d'une brosse frottée sur la pierre. Au milieu de ces voix, je perçois distinctement celle de Joan. Elle ne se perd jamais parmi les 39 autres. Elle n'est pas plus forte, comme celle de Lavinia. Elle n'est pas plus perçante. Elle se distingue. Elle est la voix sur laquelle s'appuient toutes les autres. Même Marie, qui ne chante pas, s'appuie sur elle. Quia viderunt oculi mei salutare tuum. Quod parasti ante faciem omnium populorum. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu préparais devant l'ensemble des peuples. Toutes les nonnes s'appuient sur elle, toutes acceptent de la suivre en confiance, jusqu'à la dernière note. La fin du cantique marquera la fin du jour, et sera la promesse d'une courte nuit de repos. Nous chantons sans inquiétude jusqu'au moment où Joan se tait brusquement. Les sœurs poursuivent un instant sur leur lancée, puis une deuxième voix se tait, puis d'autres et d'autres encore, la mienne et celle de Lavinia. C'est maintenant le silence. Ou plutôt, ce serait le silence si l'abbesse ne continuait pas de chanter seule en dépit de tout. Les yeux fermés, elle s'obstine.